Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le début des négociations des partenaires sociaux autour du dividende salarié. Je vais poser la question ainsi. Est-ce que nous sommes devant une révolution du partage de la valeur dans notre pays ou alors une sorte de cache-misère qui va tout simplement plomber les hausses de salaire avec l'espoir de faire taire les critiques récurrentes contre les dividendes versés aux actionnaires? Également Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a-t-il raison dans la croisade qu'il a entamée au niveau européen contre la loi de protection contre l'inflation votée aux États-Unis l'été dernier? Clairement, derrière ce texte, il y a toute une dimension protectionniste, on en parlera, et puis on restera aux États-Unis avec les enjeux des midterms. La COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, la question est toujours la même. Qui paye? Qui paye cette transition énergétique? Est-ce que le Nord doit payer pour le Sud après avoir réussi sa croissance au terme de 150 ans de cornes d'abondance d'énergie fossile? Est-ce que les États doivent payer? Les ménages doivent payer? Les entreprises doivent payer? Puis on essaiera, si on a le temps et je l'espère, d'évoquer cette déclaration de François Villeroy de Gallo qui est déterminé à poursuivre la hausse des taux au niveau européen, au niveau de la BCE, donc c'est ce qu'il déclare. Juste avant de commencer, je voulais lire un tweet que j'ai reçu il y a quelques jours d'un auditeur, un tweet assez sympa, il s'appelle Smagarald, et il m'écrit « Merci pour la qualité des échanges sur votre antenne, je ne suis pas toujours d'accord, mais personne ne niera la qualité de vos intervenants et des débats que vous animez. » C'est sympa, ça fait plaisir. En plus, si quelqu'un n'est pas toujours d'accord. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Un professeur à HEC, vous avez coécrit « Le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels » chez Flammarion. Avec nous également Denis Père, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First, vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Je me suis dit que vous seriez parfaitement en ligne avec le sujet sur la façon dont les États-Unis se protègent actuellement contre l'inflation au nom d'un protectionnisme non débridé. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Le dividende salarié, Augustin Landier, qu'en pensez-vous? Début aujourd'hui des négociations avec un patronat qui ne veut pas en entendre parler et des syndicats de salariés qui préfèrent très nettement les hausses de salaire à toutes sortes de primes ou de bonus. Ils ont jusqu'à la fin du mois de janvier pour se mettre d'accord, sinon l'État reprend la main. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on est vers quelque chose, un grand bond en avant en termes de partage du profit?
Alors, moi, comme économiste, je suis assez hostile, en fait, à ces mécanismes qui sont en réalité un peu des niches fiscales. C'est-à-dire que c'est un petit peu une mesure de court terme de réponse politique à cette question des salaires. On voit bien que le gouvernement est un petit peu au pied du mur pour trouver une réponse politique à cette question, mais qui est un peu une question économique. Là, mon point de vue, c'est que c'est quand même aux entreprises de gérer ces questions de négociation salariale. Et puis, ça se part d'une toge un peu gaullienne, parce qu'évidemment, c'est un vieux refrain du gaullisme social, de dire il est temps de réconcilier le patron et l'employé. Et de leur faire sentir à quel point ils partagent finalement le même gâteau. Mais ça, ils le savent déjà. Les gens savent bien que les augmentations de salaire, les bonus, il y a déjà plein de. Et puis par ailleurs, il y a déjà plein de mécanismes volontaires et involontaires de participation, d'intéressement. Donc on est en train de rajouter une couche de complexité obligatoire en plus sur un mécanisme qui existe déjà, qui est en réalité une niche fiscale, mais qui, d'un point de vue économique, a plutôt pour effet d'augmenter les inégalités dans la mesure où, si vous avez la chance de travailler dans une entreprise qui fait des gros profits cette année, vous allez avoir un gros plus.
Enfin, mais c'est la vie, ça, Augustin. Votre boîte a prospéré.
Non, dans le principe du salariat, et la raison pour laquelle le salariat s'est généralisé comme quelque chose qui économiquement avait de la valeur, il y a une forme d'assurance qui est l'idée que le travail, le travailleur peu riche est assuré contre les grands chocs économiques. Et alors, rajouter une couche qui en plus l'expose encore plus au destin de son entreprise. Dans le cas d'un entrepreneur, d'un start-upper, très bien, mais dans le cas d'une scierie ou d'une PME, je vois pas en quoi c'est une bonne idée. Mais encore une fois, je suis pas contre les bonus, hein, je suis tout à fait pour la liberté que chaque patron.
Mais pas l'idée d'avoir une loi contraignante.
Mais avoir une loi contraignante qui part comme ça d'un point de vue qui philosophiquement est pas fondé, parce qu'encore une fois, c'est important d'assurer les employés contre les chocs économiques et de pas non plus créer une sorte d'inégalité fiscale, en fait, avec le salaire qui serait très taxés, et puis en revanche des tas de niches qui doivent être exploitées au maximum par les entreprises, sinon elles ne sont pas compétitives. Et puis le dernier point, c'est l'hypocrisie, parce qu'au bout du compte, ça se retrouvera dans les salaires, ça se matérialisera par des salaires plus bas, dans la mesure où quand vous employez quelqu'un, vous allez lui dire, écoute, le salaire...
craignez l'effet de substitution.
Le salaire n'est pas génial, oui. Mais tu vois, sur les 5 dernières années, on a réussi à payer les gens via un mécanisme qui est fiscalement avantageux.
C'est l'objectif non dit, Augustin Landier, l'idée qu'on va éviter d'installer dans le temps et de graver des hausses de salaire pérennes avec une inflation que personne ne s'est vraiment dessinée à horizon 2 ans, et qu'on va utiliser des mécanismes qui sont des mécanismes à géométrie variable pour éviter justement un accroissement de la masse salariale. J'y vois quand même vraiment cette idée-là aussi. L'idée, effectivement, c'est que ce dividende salarié serait imposé aux entreprises dans la mesure où elles versent un dividende à leurs actionnaires. Alors, il ne faut pas prendre le mot dividende au sens dividende, mais tous les mécanismes gaulliens que vous avez rappelés à l'instant. Et donc, la vraie révolution, ce serait en fait de rendre la participation obligatoire en dessous de 50 salariés. Sinon, il se passe à peu près rien de nouveau par rapport à... Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce dividende salarié ou
juste pour dire qu'effectivement, il y a plein de mécanismes qui existent déjà, et qu'effectivement, c'est une bonne idée de pousser encore plus ces mécanismes. Moi, je suis convaincu que l'alignement des intérêts entre les dirigeants d'entreprise et les salariés est quelque chose d'absolument essentiel. Je l'ai vu à l'œuvre, et y compris dans une scierie, même le cas échéant. Il n'y a rien de tel pour que tout le monde converge vers un objectif de performance, pour que les salariés se sentent quelque part partie prenante. Moi, je l'ai vu dans des entreprises qui ont déployé des mécanismes d'intéressement, de participation, de BSPCE, d'action gratuite.
En fait, vous défendez, vous.
Mais bien sûr, les salariés... Non, je suis effectivement d'accord pour dire qu'il y a déjà plein de choses et que le côté obligatoire est probablement excessif. Mais pousser, effectivement, à la généralisation de ces mécanismes, c'est quelque chose d'important pour la performance de l'économie française. Moi, j'ai vu des salariés qui avaient les yeux éblouis à l'idée de dire, ça y est, j'ai enfin quelque chose, je suis un peu partie prenante. C'est la réconciliation du capital et du travail. D'ailleurs, quand je me suis battu sur les BSPCE il y a des années,
donc, en 97, c'était les bons de souscription de parts de création d'entreprise
créés par le gouvernement plus. Jospin, Croissance Plus, et en face de nous, le gouvernement Jospin. Donc un gouvernement de gauche, même très à gauche, et qui en fait était très favorable à ça parce qu'ils y voyaient la réconciliation du capital et du travail. Ils n'avaient pas tort.
Bon, il y a effectivement cette idée de partage du profit, de réconciliation du capital et du travail. On verra ce que va donner cette négociation qui donc s'ouvre à compter d'aujourd'hui. Patronat n'est pas très chaud parce qu'il considère que l'usage du mot dividende crée une confusion entre capital et travail, qu'un dividende c'est quelque chose qui est passé à un actionnaire qui a payé pour ça et qui sera rémunéré dans la mesure où l'année a été faste, tandis que le salarié ne paye pas et a théorie son salaire est assuré. Sauf en cas de faillite, mais enfin là, évidemment, c'est un cas extrême.
Et puis, dernier point, Augustin Landier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce thème de la réconciliation du capitalisme.
C'est important, vous avez bien constaté que systématiquement, on oppose le salaire et le dividende, pour le dire directement.
Mais je pense que ça passe par l'épargne diversifiée. C'est-à-dire que je pense que c'est très important qu'effectivement, la classe moyenne française se sente actionnaire des entreprises françaises.
C'est autre chose, l'actionnariat.
Et que la grande idée de la finance, la grande idée de l'investissement, c'est la diversification. Et que obliger les gens, en fait, à se surexposer au risque d'une entreprise, pour des salaires faibles, c'est pas une bonne idée. Essayons de partager les risques au maximum, mais tout en, effectivement, en incitant les gens à se sentir actionnaires de l'entreprise France. Mais il faut jouer sur la diversification.
C'est critiquable, l'exposition au risque. Hein. Participation, intéressement ne seront pas versés si les objectifs n'ont pas été atteints, mais il n'y a pas vraiment une prise de risque colossale en mettant en place ces dispositifs.
Si, ça veut dire que quand vous achetez un appartement, vous savez pas concrètement combien vous pouvez repayer tous les ans. Donc c'est...
Mais très bien. Après, les syndicats, ils veulent du salaire, et pas de la prime, parce que c'est bien le salaire devant le banquier qui fait qu'on a un prêt, et c'est bien le salaire qui, payant des cotisations, ouvre des droits à l'assurance chômage et à la retraite, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de ces dispositifs, qui c'est vrai. Je l'avais rarement exprimé comme ça, mais peuvent s'apparenter à des niches fiscales. Il y a de ça. Jean-Pierre Petit, Bruno Le Maire a-t-il raison dans la croisade qu'il a engagée contre le Inflation Reduction Act, loi qui a été donc votée l'été dernier aux États-Unis, qui vise à protéger le continent nord-américain des effets de l'inflation au prix d'un protectionnisme parfaitement assumé. Et là, Bruno Le Maire considère que l'Europe et l'industrie européenne, si on ne réagit pas très vite, on va se faire totalement distancer par les Américains et durablement.
Sachant qu'on se fait distancer sur d'autres, à d'autres plans, je pense en particulier au prix de l'énergie.
Mais qu'est-ce que vous dites ? Ils sont exportateurs nets.
Ça pose un problème de compétitivité structurelle, de compétitivité, d'attractivité des territoires. Donc ça s'ajoute. Alors je suis même un peu étonné qu'on se réveille maintenant, parce que moi j'avais regardé ça au mois d'août, quand la loi a été votée au Congrès américain, et j'avais déjà trouvé que c'était effectivement assez tendance. Après, oui, il a raison, mais je ne sais pas quelle est la capacité américaine La capacité européenne
trouver une réponse. C'est la question que je me pose. Oui.
Vu l'affaiblissement stratégique considérable de l'Europe occidentale au cours des dernières années, sachant que on va peut-être parler des élections de mid-term.
Mais non, on dira un mot juste après.
Alors rappelons-la, l'ombre de Donaldinho revient. Donald Trump revient et ces négociations avec Donald Trump. À partir de 2024, de novembre 2024, risque d'être, alors là, autrement beaucoup plus compliqué.
Ce que vous me dites, c'est que vous pensez que Donald Trump a toutes ses chances de retrouver la Maison-Blanche en 2024.
Absolument.
Et que le protectionnisme américain sera autrement plus sévère à ce moment-là.
Et il sera très agressif contre l'Europe. Les dernières, moi je suis toujours ce que dit Trump, même depuis qu'il a été battu, il y a 2 ans. Et il a fait des déclarations contre les accords, d'ailleurs, entre les États-Unis, de Biden, avec l'Europe. Et il a souvent... pris à partie, notamment il est revenu là-dessus sur la non-participation suffisante à ses yeux de la contribution des Européens à l'OTAN. Et il y a eu un bouquin de Bolton, de son ancien conseiller, qui a dit que Trump aurait eu l'intention de quitter l'OTAN pour les États-Unis.
Imaginez ça.
Attention, c'est quand même son conseiller. C'était son conseiller à la sécurité. Donc il y a des challenges extrêmement importants qui arrivent devant nous. Et je ne sais pas, moi c'est intéressant ce que dit Bruno Le Maire, mais d'abord, est-ce qu'il y a accord en Europe là-dessus ?
Il n'y a rien pour l'instant. Il est en train justement de serrer des mains dans tous les sens en disant que c'est une priorité, mais il est un peu seul.
Je ne sais pas.
De la même manière qu'il a été l'un des premiers à se battre contre le marché unique de l'énergie, et aujourd'hui c'est devenu un sujet.
Oui, alors là-dessus.
Mais, on va pas ouvrir tous les
sujets. Là-dessus, il y a une urgence un peu plus nette quand même que sur ce sujet de compétitivité structurelle.
Bruno Le Maire et l'IRA, rien à voir avec l'Irlande, bien sûr, mais c'est le poids américain.
Et ça, il aurait pu s'insurger depuis longtemps. Ouais. Contre les subventions massives du gouvernement chinois à tout un tas d'industries considérées comme stratégiques, en particulier toutes celles de la transition énergétique, où la Chine, depuis 20 ans, ne respecte pas les règles de l'OMC. Dans ce domaine-là, la règle de l'OMC, c'est qu'on a le droit de subventionner uniquement la R&D. On n'a pas le droit de subventionner le reste, la production, l'exportation, etc.
On sait que la Chine, mouche avec les règles de l'OMC depuis le début.
Complètement. Or, oui, et donc là, les Américains, effectivement, décident de faire un peu la même chose. Et donc, effectivement, Bruno Le Maire s'insurge. Il a raison. Mais les Américains ont raison aussi. Les Américains ont compris que la transition énergétique, c'est une révolution industrielle absolument majeure. C'est pas un peu de logiciel et un peu de service, c'est surtout des équipements fabriqués par des ouvriers. Et aujourd'hui, l'usine du monde, c'est la Chine, parce qu'on l'a voulu. Les États-Unis, l'Europe, on l'a tous voulu ces 30 dernières années. Et donc, les Américains disent, on peut pas laisser, pour des raisons à la fois sociales, majeures, et des raisons stratégiques, la Chine s'emparer exclusivement seule de ces secteurs. Et donc, ils disent, nous, on va aider nos constructeurs, effectivement, à développer une filière du véhicule électrique. Et donc, on va les aider grâce, effectivement, à des aides, $7,500, à des véhicules qui sont fabriqués essentiellement aux États-Unis, assemblés aux États-Unis. Alors, au départ, c'était effectivement des aides destinées uniquement aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Puis, ils l'ont élargi un tout petit peu à leur zone d'influence et leur zone de libre-échange, qui est le NAFTA, qui sont donc le Mexique et le Canada. Et donc, par rapport à ça, effectivement, c'est un problème pour les Européens qui ne peuvent plus espérer vendre aussi facilement des véhicules là-bas. Cela dit, moi, je pense.
Oui, qui peuvent, a priori. Qui n'ont plus aucun espoir d'en vendre un seul.
À un prix compétitif.
Bah,
donc, cela dit, moi je pense que le maire a raison effectivement de s'insurger. Je pense qu'on a des leviers, contrairement à ce qu'on vient de dire. Je pense qu'on a des leviers, parce qu'on est un marché aussi pour les entreprises américaines, et en particulier les entreprises automobiles américaines. Donc on peut, la réciprocité peut faire qu'on décide de sanctionner les Américains qui se comportent comme ça. On est un marché très important, de 450 millions d'habitants, donc on a des leviers.
Le protectionnisme répond au protectionnisme.
Bien sûr, à condition qu'on soit tous d'accord. Et je pense que ce qui risque de se passer, et que j'appelais moi de mes voeux dans mon livre Le contrat mondial, c'est qu'on risque d'être amené à créer, pourquoi pas, et je pense que ça a du sens, une vaste zone de libre-échange entre démocraties libérales qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs. On a 150 ans d'histoire sociale, on a 50 ans d'histoire environnementale, et on a de fait des coûts qui sont bien plus élevés que des pays qui ont très peu d'histoire sociale et très peu d'histoire environnementale, comme la Chine. La Chine a une très courte histoire dans ce domaine-là et fait tout pour maintenir ses normes sociales à des niveaux les plus bas possibles. Aujourd'hui, les normes sociales en Chine, il faut bien comprendre que c'est les normes sociales de Zola et de Dickens. On peut aujourd'hui faire travailler de la main d'œuvre forcée. Il y a un article du New York Times il y a quelques jours qui a expliqué que les batteries chinoises étaient fabriquées en grande partie par les ouvriers ouïghours, de la main d'œuvre forcée. Vous donneriez la possibilité à des chefs d'entreprise occidentaux, français, européens, américains, de faire travailler de la main d'œuvre forcée, on ferait des étincelles, on ferait un carton évidemment. Donc à partir du moment où vous tolérez l'esclavage ou le semi-esclavage en Chine et que vous exigez obliger les Occidentaux de respecter des normes extrêmement élevées et donc extrêmement coûteuses. Il n'y a pas de concurrence équilibrée, il y a une concurrence déloyale. Et donc la politique des Américains consiste à réagir par rapport à cette concurrence déloyale.
On n'est pas à l'aube du moment où on va justement le créer, ce monde démocratique face à l'autre.
Hein. Parce que ce que je pense qu'il va se passer inévitablement, qu'au même titre que les Américains ont élargi effectivement au Canada et au Mexique, je pense qu'à terme, on va avoir cette vaste zone de libre-échange entre pays démocratiques, entre démocraties libérales qui partagent les mêmes valeurs, pour au moins les industries stratégiques, c'est-à-dire les industries de la transition énergétique, pour éviter de faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle coûte une fortune aux États occidentaux et qu'on soit uniquement des consommateurs de produits chinois. C'est pas acceptable.
Juste un mot.
Très vite, et puis Augustin après. Jean-Pierre, vraiment.
N'en veut pas de cette unification des pays.
Je pense qu'il n'en veut pas.
Trump n'en veut pas, mais Trump n'est plus au pouvoir, alors il reviendra peut-être. Et Trump, je pense qu'il reviendra un peu de réalisme aussi, parce que c'est pareil, il comprend les rapports de force. Si à un moment donné l'Europe se replie, il sera bien obligé de s'ouvrir aussi.
Protectionnisme jusqu'où ? Pourquoi ? C'était le titre d'une chronique commune avec David Tesmar dans Les Échos le 31 octobre. On est exactement dans la thématique qui nous
occupe. Oui, complètement. Je pense que d'abord Bruno Le Maire a raison de dire c'est du protectionnisme, à peine déguisé d'ailleurs.
C'est même revendiqué en réalité. Je rappelle, 7 500 $ de subvention pour une voiture construite sur le sol US par un ouvrier syndiqué. Il n'y a que les constructeurs américains qui sont dans le Michigan où il y a des ouvriers syndiqués. Voilà. Tous les autres sont dans le sud du pays et il n'y a pas de syndicats d'ouvriers.
Après, ce qui est intéressant dans le monde des idées, c'est que je pense qu'effectivement le consensus sur la globalisation a changé et qu'en particulier sur le libre-échange, le protectionnisme est un mot tabou chez les économistes modérés et il le devient de moins en moins. Et je pense que c'est important de comprendre pourquoi. C'est-à-dire que l'idée que, d'un point de vue d'efficacité économique, le libre-échange est efficace, elle reste, tous les arguments classiques restent valides. Et d'ailleurs, même quand il y a de la concurrence déloyale, l'argument c'était de dire, attendez, si les Chinois produisent vraiment pas cher, en mettant la morale de côté, on a intérêt à acheter le moins cher possible, ça sera pas efficace économiquement de dépenser plus pour obtenir la même chose. Mais après, effectivement, il y a d'autres considérations qui petit à petit ont pris de l'importance. Il y a l'espèce de délitement social qu'induit la désindustrialisation, et ça les économistes l'avaient pas vu. On pensait que faire des chèques et redistribuer les gains de la globalisation, ça fonctionnerait. Or, d'abord on n'arrive pas à le faire, deuxièmement même
privilégier le consommateur contre le producteur, donc il y a un moment ça se paye.
Voilà. Et faire des chèques, ça remplace pas le travail, ça crée un effondrement psychique, et les États-Unis l'ont vécu, et de plus en plus on comprend à quel point c'est lié aux dynamiques politiques dans nos pays, hein. Ensuite il y a la question effectivement de la souveraineté, à la fois au sens géopolitique mais aussi l'aspect dynamique, qui est que dans une période où il y a de l'innovation, si vous perdez le fil en un sens, vous pouvez pas, ça devient très difficile de rattraper. Donc en un sens, il y a des effets de long terme sur le fait de plus avoir un pied du tout dans une industrie donnée. Et puis après, il y a cette nouvelle question de morale qui effectivement n'était pas vraiment formulée explicitement, mais qui devient de plus en plus centrale, en particulier avec la transition énergétique, qui consiste à dire on veut, comme investisseur, comme consommateur, avoir un impact, on se soucie de comment les choses sont fabriquées. Ça c'est nouveau.
Les notions ESG, elles sont bel et bien là.
Trois thèmes, je pense que la doctrine sur le protectionnisme est en train de changer, et que l'OMC effectivement a des règles qui sont probablement un peu caduques, enfin qui demandent d'être formulées en tout cas, réexplicitées.
Alors, une règle sur le protectionnisme qui évolue, après est-ce que c'est une évolution souhaitable ou pas ? Parce qu'à l'arrivée, le protectionnisme c'est de l'inflation.
Oui, mais l'économie, c'est toujours du principe de réalité.
Enfin, là, c'est juste, alors soyons dans le principe de réalité et pas dans les bouquins, effectivement. Denis Père, oui.
Oui, enfin, c'est le fameux débat sur est-ce qu'on préfère effectivement avoir des classes populaires qui sont assistées et qui dépriment et qui votent Trump pour les extrêmes et qui cassent la démocratie, ou est-ce qu'on veut redonner des emplois bien payés aux classes populaires ? Si on veut redonner des emplois bien payés aux classes populaires et qu'on n'accepte pas les standards sociaux chinois, que donc on va payer ces gens correctement, qu'ils auront une assurance sociale, il faut se rappeler que le poids de la dépense sociale dans le PIB chinois, c'est 10%. La moyenne des pays occidentaux, c'est 26%. Nous, on est à 31,5%, c'est n'importe quoi.
Et encore,
quoi,
ça a beaucoup complètement augmenté en Chine sur les...
Et ça a beaucoup augmenté, absolument. Non, mais on est à 10%. L'Inde, c'est 2%. Donc, quand vous avez de tels écarts, effectivement, de dépenses sociales, vous avez des écarts de coûts qui sont considérables. Donc, oui, c'est inflationniste, mais en contrepartie, ça crée des emplois et ça donne du pouvoir d'achat à des gens qui ont les moyens, effectivement, de se payer ces produits qui coûtent un peu plus cher. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire pour tous les produits. Il faut être extrêmement sélectif. Cette forme de protectionnisme, moi, je préfère parler de rééquilibrage de la concurrence. sens de la mondialisation, avec une mondialisation plus éthique, plus respectueuse des normes sociales et environnementales. Et donc, de ce fait, on le fera que pour des produits qui sont réellement stratégiques
mais
et importants.
Remarquez une pause, mais je crains, Denis Père, qu'on ne le fasse sans les Américains. Parce qu'il n'y a pas que Trump qui a fait du protectionnisme. Obama a fait du protectionnisme. Tout le monde a fait du protectionnisme aux États-Unis. C'est consubstantiel à l'Amérique. On dit toujours un pays libéral. C'est pas un pays si libéral que ça. Et là, il faut reconnaître que cette loi votée l'été dernier, voilà, c'est.
Les Américains ont besoin de l'Europe.
Justin disait à peine déguisé. Oui, non, c'est même pas déguisé.
Les Américains ont besoin de l'Europe. Ils peuvent pas se couper un marché de 450 millions d'habitants.
Je suis d'accord.
Donc, ils seront obligés de trouver un accord avec les Européens.
Bah pour l'instant, Bruno Le Maire est un peu seul.
Oui, mais c'est bizarre qu'ils soient seuls parce que les Allemands ont bien plus de problèmes que nous parce qu'ils fabriquent beaucoup plus d'automobiles, effectivement, dans le sud des États-Unis que les Français. Donc, je suis surpris que les Allemands ne soient pas plus montés au créneau.
Hyundai, qui est la deuxième marque la plus vendue sur le sol américain, a à peu près toutes les chances de ne vendre aucune voiture électrique une fois
bien
que
sûr, mais Mercedes et BMW aussi.
C'est parce que les Allemands ont du mal à sortir de leur mercantilisme. On voit bien avec la visite de Scholz chez.
On a aussi quand même des difficultés à apporter des réponses européennes structurées face à des situations.
Et parce qu'on a
que
subi,
ce soit la situation chinoise qui a été décrite par.
Et parce que l'Europe est secouée déjà dans tous les sens depuis quelques années. Avec Trump, le Covid, la guerre d'Ukraine, il faut pas.
Ça m'intéresserait que vous. On marque une pause, mais ça m'intéresserait que vous me disiez si vous pensez que l'Europe est condamnée, tiens, justement. Parce que ça commence à devenir une question qu'on a le droit de se poser aujourd'hui. On marque une pause. Les midterms à suivre. Et puis la COP21, qui doit payer ?
BFM Business. La France a tout pour réussir. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Augustin Landier, professeur à HEC, qui a coécrit Le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. On peut vous lire donc dans cette chronique consacrée au protectionnisme dans les échos du 31 octobre. C'est en page 10. Denis Père, président de Nature and People First, qui a publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Vous nous avez esquissé les grandes lignes finalement dans les propos tenus juste avant. Au moment où on évoquait la posture assez perso des Américains. Et Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Éric Mécry, peut-on rappeler que le dividende salarial existe déjà ? Ça s'appelle participation à intéressement. Il serait plus intelligent de favoriser l'actionnariat salarié, m'écrit-il. Et puis Sally, qui dit « J'ai un problème avec le dividende salarié car il expose le salarié au risque spécifique de son secteur, ce qui est fondamentalement inégalitaire. » C'est un peu ce que vous nous disiez, Augustin Landier. Les midterms, pour continuer sur ce qu'on, évoquait à l'instant, Jean-Pierre Petit. Les enjeux que vous voyez derrière cette élection de mi-mandat.
Ce sont des élections importantes. D'abord, bon, pour le président en place, c'est toujours une épreuve, les midterms. Il est pair en général, au moins partiellement, sur l'après-guerre. Non, mais
oui,
j'ai vérifié.
Et c'est bien ce que tout le monde imagine cette fois-là.
Hein. Dans 90% des cas, et donc il perd, surtout quand il n'est pas populaire, et il n'est pas populaire. Puisque Biden se tourne autour de 40% de popularité. Donc quand il est sous les 50, en général, il est pair. Alors là, il a une petite majorité à la Chambre des représentants, Biden, et il a égalité au Sénat, et comme la vice-présidente est démocrate, ça fait passer la majorité. Ric-rac. Bon, là, il va perdre la Chambre des représentants, c'est une quasi-certitude, si on suit les organismes de sondage. Sur le Sénat, c'est un peu moins, parce que le Sénat ne se renouvelle que d'un tiers, sur les 100 sénateurs, alors que la Chambre des représentants, c'est la totalité. Donc là, c'est un peu moins sûr, mais en disant qu'il y a une bonne probabilité que les Républicains l'emportent. Donc ça va être un Biden qui va plus pouvoir, parce que là, pour faire passer, y compris les projets de loi de finances, le budget, il faut la majorité. Il faut la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Faut jamais oublier que le régime américain, c'est un régime semi présidentielle, de séparation stricte des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif, et donc il faut le législatif. Le législatif a beaucoup de pouvoir, le Congrès américain a beaucoup de pouvoir. Voilà. Et il faut les deux. C'est un bicamérisme égalitaire. Donc il faut les deux pour la plupart des sujets. Voilà. Donc ça, il va les perdre. Donc il va être handicapé. Donc ce sera fini. Les plans IRA, les Build Back Better, etc. Enfin, tous les projets de relance budgétaire qu'il avait, qui n'avaient pas été votés à cause, d'ailleurs, de l'opposition d'un sénateur modéré, Manchin, qui n'a pas pu faire passer, notamment en matière d'aide sociale, etc. Alors, quel est l'enjeu ? Alors, sur le plan budgétaire, plus rien ne passera. Sur le plan des autres projets qu'il avait, un petit peu structurels, ça va être très, très difficile. Mais je crois que l'enjeu le plus important, c'est l'aide à l'Ukraine. Vous avez un gars qui va devenir probablement le speaker, celui qui va remplacer Nancy Pelosi. Il s'appelle McCarthy d'ailleurs. C'est un nom célèbre dans l'histoire politique américaine. Et ça va être probablement le speaker, donc le chef de la Chambre des représentants. Il a fait des déclarations, et plusieurs futurs représentants ou sénateurs républicains ont fait des déclarations sur une limitation ou un meilleur contrôle, à tout le moins, de l'aide à l'Ukraine. Et ça, c'est fondamental, hein, puisque je rappelle que l'aide totale américaine à l'Ukraine, c'est plus du double de celle de l'Europe. Hein. Donc, autant dire que Zelensky, sans l'aide américaine, n'est pas capable de mener sa contre-offensive. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire quoi ? C'est pas forcément, d'ailleurs, une très mauvaise nouvelle sur le strict plan de l'économie et des marchés. Ça devrait limiter les capacités de l'armée ukrainienne à pénétrer éventuellement le territoire russe et même aller à des velléités de reprendre la Crimée. Et donc, ça pourrait éventuellement, in fine, favoriser une pression des États-Unis avant le retour de Trump, justement, ça c'est très important, une pression des États-Unis sur Zelensky, parce qu'en fait, on se pose toujours la question de savoir comment réguler Poutine, mais je crois que la question la plus cruciale aujourd'hui, c'est comment réguler Zelensky. Et le seul, à mon avis, la seule puissance qui a la capacité de réguler Zelensky, c'est les États-Unis. C'est eux qui mènent le jeu, hein, fondamentalement. Et c'est eux qui vont siffler la fin de la partie. Et par cette pression, ils pousseront, à mon avis, probablement, et surtout si le Congrès passe républicain, probablement, je vais dire probablement ou assez probablement, Zelensky et le gouvernement ukrainien à aller vers une négociation avec Poutine et revenir au pourparlers d'Istanbul, je le rappelle, qui après la guerre d'Ukraine au mois de mars avait abouti quand même à un début d'accord avec une effectivement une garantie de sécurité de l'Ukraine, une neutralisation de l'Ukraine sur le plan stratégique, c'est-à-dire non adhésion à l'OTAN. Et la sanctuarisation de la Crimée en Russie. Moi, je pense qu'il y a une bonne probabilité, surtout avec un Congrès républicain, d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à ça.
Voilà. C'est un grand enjeu, en fait, ce que vous dites. Ça peut peut-être précipiter la fin des hostilités militaires sur le sol européen.
C'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça.
Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur les midterms ou sinon
Non, je suis très en phase avec l'analyse. Je voulais juste dire que sur l'IRA, ça sera pas forcément la fin de l'IRA, en tout cas tel qu'on le connaît. Ça sera effectivement, de budget peut-être considéré comme excessif par les Républicains, effectivement. Mais les mesures protectionnistes dont on parlait tout à l'heure, je pense, resteront d'actualité.
Je pense que l'Amérique restera
totalement en phase avec ça. Et Trump a été le premier à inaugurer ces mesures. Et je vous rappelle qu'il y a une compétition entre Trump et Biden sur comment celui qui sera le plus dur avec la Chine. Biden s'est fait élire à récupérer des États démocrates qui avaient basculé républicains, comme la Pennsylvanie, comme le Michigan, qui étaient des États blue-collar démocrates depuis des années et qui, à la surprise générale, étaient devenus des États des républicains, en promettant d'être plus dur que Trump avec la Chine, ce qu'il est en train de faire. Donc il y a une espèce de surenchère sur la dureté au niveau du commerce international et la dénonciation, effectivement, d'accords de libre-échange considérés comme déséquilibrés. Juste pour terminer là-dessus, une dernière chose aussi, ce qui est intéressant, c'est que les Américains se battent aujourd'hui sur le volet social et sur les conséquences sociales de ces accords de libre-échange de façon très surprenante, parce qu'on n'imagine pas les Américains se battre sur des sujets sociaux.
Historiquement, ça n'a jamais été le cas.
Ouais. Je vous rappelle aussi que Trump, par exemple, à la surprise générale, avait décidé d'une augmentation des salaires des ouvriers de l'automobile mexicaine, un triplement des salaires de 5 à 15 dollars, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il avait imposé au Mexique à l'époque, pour essayer de rééquilibrer la concurrence, effectivement, avec le Mexique, et dans une dimension, effectivement, sociale. Donc, les Américains se battent sur la dimension sociale de ces déséquilibres des accords de libre-échange. Les Européens se battent uniquement sur la dimension environnementale aujourd'hui, de façon très surprenante, parce que les Européens se revendiquent comme les champions du social, et les Européens n'ont aucune, aujourd'hui, légitimité, ne font rien dans ce domaine-là, par rapport au déséquilibre qu'il y a avec la Chine sur ces sujets-là. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça.
Augustin Landier.
Oui, donc en termes de guerre, le retour de Trump, ça signerait effectivement la fin aussi de la guerre climatique que les États-Unis essayent de s'engager. Et donc en ce sens-là, oui, ça serait sur les sujets dont on parlait avant, ça serait un changement un petit peu du...
Qu'est-ce que vous voulez dire par la fin de la guerre climatique? Ça veut dire...
Ce que je veux dire, c'est que l'investissement de l'État américain dans des solutions de transition climatique serait remis en cause.
Ah, oui, d'accord.
Donc la doctrine changerait là-dessus. Et du coup, effectivement, sur cette question des clubs de libre-échange, ça deviendrait plus dur d'imaginer que les États-Unis puissent être dedans, puisqu'effectivement, les taxes carbone à la frontière deviendraient de facto des... une forme de protectionnisme autour de l'Europe, ouais, environnemental autour de l'Europe.
Mais vous croyez que l'Europe va se relever de tout ça, Jean-Pierre ?
Moi, ça fait longtemps que je dis que, hélas, je crains fort que les pressions reculent, on va dire recul historique dans tous les domaines, hein, ou presque tous les domaines de l'Europe sont déjà présentes, et je crains fort que la réaction de l'Europe globalement, hein, aux chocs nombreux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire Trump, Brexit aussi, hein, faut pas l'oublier, qui est une épreuve, mais aussi Covid, qui a montré toute une série de faiblesses stratégiques, et la guerre d'Ukraine, et le protectionnisme qui est récurrent et qui risque de se renforcer, la réaction européenne est quand même à la fois tardive, insuffisante et pas à la hauteur, quoi. Voilà. Et la hausse du prix de l'énergie est extrêmement importante. Et quand on parle de prix de l'énergie, c'est pas le pétrole, hein. Là, c'est un choc énergétique. C'est électricité, gaz. Quand on voit le prix de l'électricité et du gaz aux États-Unis en Europe, il y a pas photo. Enfin, c'est rare d'ailleurs. Historiquement, les marchés étaient pas connectés. Là, ils se sont un petit peu reconnectés à cause des pressions sur le gaz LNG américain. Mais fondamentalement, ils étaient pas. Mais on voyait pas ces différences aussi fortes entre les États-Unis et l'Europe. Alors, sur le prix du gaz et l'électricité.
Le pétrole est un marché mondial, mais pas le prix du gaz qui dépasse.
Non, mais là, il s'est complètement déconnecté.
Denis Perlet. Oui,
cela dit, si le scénario qu'exposait Jean-Pierre tout à l'heure se révèle exact, ce qui n'est pas impossible, effectivement, hein, sur l'arrivée d'un speaker républicain et donc l'arrêt d'un soutien mordicus sans condition à Zelensky et donc la fin du conflit à un moment donné, c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'Europe. C'est probablement triste d'un point de vue moral, sauf qu'on ne connaît pas les termes de l'accord final qui pourrait être trouvé, hein, mais de fait, ça permettra probablement de faire baisser les prix du gaz aussi, et donc de sortir probablement de cette crise énergétique plus rapidement qu'on ne le croit, et de son choc effectivement sur l'industrie européenne, qui est dramatique, bien sûr.
La COP27, qui doit payer ? Qui doit payer, c'est la question que je pose. Alors je ne sais pas d'ailleurs quelle sera votre réponse, vous pouvez venir avec vos réponses, moi je viens avec mes questions, mais est-ce que le Nord est en capacité d'interdire au Sud de s'enrichir avec le fossile, hein, qui a été la corne d'abondance de l'ensemble des pays européens pendant 150 ans, est-ce que le Nord doit payer pour la réparation des dommages causés ? Et puis à la fin, les États, les ménages, les entreprises, c'est la question, Jean-Pierre Petit, je pense. C'est la question centrale d'un événement comme celui-là.
Alors l'opposition Nord-Sud est un peu caricaturale.
Elle est
parce
un peu
que
caricaturale, je suis d'accord.
Entre l'Inde et l'Afrique, qui effectivement émettent très peu par habitant, hein. Les émissions par habitant sont beaucoup plus faibles que la moyenne mondiale, ce qui n'est plus le cas de la Chine. Je parle des émissions par habitant. Donc déjà le sud, il faudrait quand même un petit peu.
Je suis d'accord que c'est caricatural.
Et au sein du nord également, je rappelle que les émissions par habitant de l'Union européenne, où on trouve tous les plus gros opposants climatiques, les plus gros groupes de pression qui se manifestent, c'est la moitié à peu près des États-Unis, hein. Voilà, c'est beaucoup moins que la Russie aussi, qui est un pays à revenu intermédiaire. Donc c'est vrai que ça, c'est une question de justice climatique. Alors il y a plusieurs aspects dans la justice climatique, mais il y a un aspect effectivement international, d'où la grosse difficulté d'ailleurs en termes opératoires. Moi je trouve que la lutte contre le réchauffement, ça pose un problème d'équité intergénérationnelle qui est très problématique pour tous les pays, démocratiques ou pas d'ailleurs, et d'équité internationale. Ça, c'est un pour la gestion de ce genre de truc, c'est extrêmement complexe, d'où la difficulté actuelle, même si tout le monde reconnaît le réchauffement. Maintenant, il n'y a pas trop de sujets. Alors, Nord-Sud, oui, alors ça fait partie des trucs. Ce d'autant que les engagements de baisse d'émissions dans les pays du Sud sont souvent conditionnés à des transferts du Nord vers le Sud. Et donc, les objectifs de baisse de la température, enfin, par rapport à... de ralentissement de la hausse de la température d'ici la fin du siècle, de neutralité carbone, sont conditionnés à ça. Donc, il va bien falloir arriver à quelque chose. Mais d'un autre côté, les pays du Nord sont très, très réticents. Donc, c'est extrêmement complexe. Mais il n'y a pas que ça, de toute façon. Il y a un problème global, hein, avant la COP27. Parce que là, quand on regarde les derniers chiffres, par rapport à Glasgow, il n'y a que 4 pays qui ont augmenté leurs ambitions en termes de baisse d'émissions. Je crois qu'il y a l'Australie, il y a le Brésil, il y a la Corée du Sud, et puis il y en a un autre que j'ai oublié. C'est tout. Et une augmentation assez forte du stock de méthane, parce qu'on parle toujours des CO2.
Le méthane, c'est le premier gaz à effet de serre, mais il est beaucoup moins présent que le CO2.
Ouais, mais quand même, 19% au niveau mondial. Le CO2, c'est 72%. Et ce qu'on voit sur les derniers chiffres, c'est que le stock de... Enfin, les émissions de méthane ont nettement progressé. C'est la mauvaise surprise, en quelque sorte. Et que quand on regarde regarde l'ensemble, on voit que moi, si je vous donne la moyenne des prévisions globales, les plus ou moins réalistes pour le réchauffement d'ici la fin du siècle, on se balade entre 2 et 3.
Donc on est loin du compte.
On n'est pas à 1,5. Pour arriver à 1,5, il faudrait que les émissions de CO2 baissent entre 2019 et 2030 de 43%. Et là, on est à des années-lumière de ça.
Tout le monde cherche la bonne solution. On dit, faut-il un fonds abondé par les États du Nord? Faut-il alléger la dette des pays qui ont besoin d'accélérer cette transition? Est-ce qu'il faut faire payer les multinationales sur chaque tonne d'émissions de CO2 produites dans les pays du Sud? Et dans ces cas-là, faire gérer ça par un fonds international qui ferait de la redistribution? Réaction, Denis Père, Augustin Landier, par rapport à cette COP27, est-ce qu'on peut en espérer?
Le débat, effectivement, à la COP27, ça sera effectivement la relation Nord-Sud, effectivement, et aider les pays du Sud à décarboner avec un débat moral, effectivement, qui est, je crois, très légitime. Hein, effectivement, nous, on s'est enrichi pendant 150 ans en polluant allègrement et on voudrait leur interdire de faire la même chose. Donc, on comprend très bien. Et puis, en plus, le fait qu'ils sont souvent les premières victimes aussi de la
du réchauffement. Complètement.
Quand tu vois ce qui s'est passé au Pakistan cet été, enfin, avec, je sais pas combien, plusieurs milliers de morts, des millions de victimes suite à des inondations qui sont clairement liées au réchauffement climatique, c'est un vrai sujet moral. Et puis, mais il y a un sujet aussi de principe de réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne les aide pas, ils ne vont pas décarboner. Nous, on représente que 1% effectivement des émissions de CO2 de la France, de la planète. La Chine, c'est 30%. Alors c'est massif, hein, c'est 1000 gigawatts de charbon auxquels ils sont en train de rajouter 240 gigawatts de charbon là actuellement. C'est autant que la base installée américaine de charbon qui leur reste, qui est à peu près 240 gigawatts. 240 gigawatts, c'est 240 tranches nucléaires à peu près, hein, juste pour bien avoir en tête ce que ça veut dire. L'Inde, c'est le troisième plus gros. Alors effectivement, par habitant, c'est très faible, il y a beaucoup d'habitants, donc c'est le troisième plus gros pollueur de la planète. Donc, si on n'aide pas l'Inde à décarboner, ils ne vont pas décarboner. Et donc, on ne va pas réussir à atteindre, effectivement, les objectifs qu'on s'est fixés.
Évident.
Donc, après, quelles sont les solutions? Je pense que c'est un panel de tout ce que vous évoquez. Moi, je suis un grand fan des taxes carbone aux frontières. Je pense que ça reste l'outil, donner un prix au carbone, ça reste l'outil le plus efficace.
Tous les économistes sont d'accord avec ça.
Ce qui est dommage, c'est que les Américains ne l'acceptent pas pour l'instant, sont farouchement hostiles.
Si Trump revient, vous allez voir, comme dit Augustin.
Encore moins, effectivement. Donc ça, c'est triste parce que c'est quand même des gens intelligents, des économistes intelligents. Mais pour l'instant, les lobbies, voilà, ont fait que ça n'a pas passé. Et c'est dommage parce que ça reste, je pense, la méthode la plus efficace.
Augustin Landier.
Oui, donc il y a le plan un peu de la philosophie morale qui est intéressant pour le débat, mais qui n'est pas très opératoire parce que les populations, les électeurs dans les démocraties, quand c'est des démocraties, et puis c'est encore moins pertinent quand c'est pas des démocraties, les électeurs sont plutôt, les classes moyennes, de manière générale, sont pas très universalistes. On voit bien qu'elles sont prêtes à faire des sacrifices plutôt pour leur communauté, leur nation éventuellement, mais que plus le périmètre s'éloigne, plus, plus l'idée qu'il y a un arbitrage entre leur bien-être et la morale.
Regardez le débat si on décide de passer à 110 km/h à la vitesse sur les autoroutes.
Après, je pense qu'il y a deux autres enjeux peut-être qu'on peut mentionner. Donc il y a l'arbitrage à faire dans les investissements qu'on fait pour la mitigation versus l'adaptation. Et donc pour ces pays pauvres, il y a un petit peu cette question de savoir s'il s'agit de les aider pour se décarboner ou cesser d'exploiter certaines ressources, et puis aussi les aider pour s'adapter en fait, parce que c'est aussi eux qui sont les plus impactés. Donc ça, c'est pas évident en fait, même moralement, justement, la manière dont il faut gérer cet arbitrage entre ces deux dimensions qui sont pas toujours complémentaires. Elles sont souvent substituées. C'est-à-dire que si la décarbonation de nos économies se fait pas vite, les catastrophes pour ces pays pauvres sont accentuées et donc l'aide dont ils auront besoin s'accentue. Et donc ça me permet de transitionner vers ce qui sera à mon avis l'élément de ces négociations, si on le voit comme une négociation plus que comme un enjeu de philosophie morale. La question migratoire sera au cœur de ces négociations. C'est-à-dire que la menace en fait des pays pauvres, c'est la menace de lâcher la bride ou de ne pas trouver de solution finalement pour contenir des flux migratoires qui seront la grande question, je pense quand même, à horizon 30 ans, des conséquences de la désertification de certaines zones. Ça, il faut commencer en fait à penser.
Ça fait des années qu'on alerte sur la migration.
Oui, mais ça se planifie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être ouvert à l'idée d'ouvrir des grandes zones parce qu'il va falloir faire des transferts de population assez massifs.
Oui, parce que c'est vrai, ce sont les pays pauvres qui subissent le plus.
Ah, mais clairement, on l'a bien vu au Pakistan.
Profonde de perturbation des moussons, actuellement. On l'a vu, effectivement, on le voit en Asie du Sud, mais on le voit aussi ailleurs. Il y a l'insécurité alimentaire qui avait considérablement progressé sur les 40 dernières années et qui, là, se dégrade à nouveau. Alors, c'est pas massif, mais voilà. Moi, je pense que là où il y a un boulot à faire pour les économistes, c'est de un petit peu mieux chiffrer les coûts actuels et futurs, mais les coûts actuels du réchauffement. Alors évidemment, il y a les inondations, il y a les tempêtes, etc. Mais il y a même, je veux dire, le cœur de l'activité économique, et pas seulement au bord des mers, hein, parce que là, souvent, on dit le tourisme, la salinisation des sols, tout ça, ça. Mais il faut aller un petit peu, faut que les économies soient un petit peu plus concrets, un petit peu plus concrets sur le coût macroéconomique actuel et des prochaines années, ce qui les concerne les plus directement, pour et puis peut-être un petit peu qui concerne un petit peu tout le monde, hein, y compris certaines formes de maladies à cause des canicules, je ne sais quoi, pour un petit peu faire mieux prendre conscience l'opinion publique dominante actuelle dans les démocraties et ailleurs, pour faire réagir la communauté internationale. Je crois qu'il y a un levier là-dessus. Bon.
Denis Père, pour conclure là-dessus, après je passerai la parole à Augustin, qui est toujours passé en troisième, je crois, quasiment sur tous les sujets, ce qui est quand même jamais vraiment un cadeau.
Pour conclure là-dessus, effectivement, la COP27, elle met en évidence aussi, effectivement, la difficulté pour la transition énergétique de se mettre en place et de tenir les promesses. Il y a eu une promesse faite en 2009 à Stockholm d'allouer 100 milliards de dollars par an à un fonds, effectivement, pour aider à la transition énergétique dans les pays émergents. On est en 2022, bientôt en 2023, ça n'est toujours pas en place, en tout cas pas complètement. Donc on voit bien que c'est quand même très très long, très compliqué. Ça l'est chez nous, ça l'est effectivement au niveau des COP, et ça c'est un problème.
Bon,
ça,
tout
c'est...
le monde reconnaît que les espoirs de résultats vraiment concrets, tangibles, opérationnels à l'issue de ces grandes messes autour du climat sont souvent déçus, ces espoirs, mais heureusement quand même que ces espaces de dialogue existent, malgré tout, pour que les sujets soient abordés. S'il n'y avait absolument rien, alors là on aurait l'assurance que rien ne se passera. François Villeroy de Gallo, Augustin Landier est formel, il dit il faut absolument continuer à augmenter les taux. Et on a un vrai débat qui s'est installé entre ceux qui disent mais c'est de la folie de continuer à augmenter les taux. On a à peu près la certitude que ça va ajouter de la récession à la récession et que ça va nous mettre dans une situation encore plus compliquée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et bien François Villeroy de Gallo dit il faut continuer à augmenter les taux et tout le monde s'attend à ce qu'à nouveau en décembre on ait 75 points de base de hausse de taux.
Bah là, il est dans son rôle, hein. C'est le mandat de la Banque centrale. C'est assez mécanique, les fonctions de réaction, c'est pas subtil, et en particulier comme les problèmes de crédibilité sont complètement clés, faut surtout pas commencer à dire oh mais là on est dans un cadre un peu particulier. Donc oui, enfin je suis pas surpris.
Il faut réagir comme un automate quand on est banquier central.
Bah, en tout cas,
je suis là pour garder l'inflation, la crédibilité de ma monnaie et éviter les anticipations.
C'est tout le principe de la délégation de la politique monétaire à quelque chose d'un quasi automatique en un sens, et voilà, on peut remettre en cause ces principes, mais en tout cas, là, effectivement, il ne s'agit pas de réécrire la partition pour l'adapter. Après, il y a un autre sujet qui est la question de la gestion des crises financières, etc. Et c'est un peu l'autre volet du dialogue actuel entre les banques centrales et les banques.
Alors, les banques commerciales, cette fois-ci, qui considèrent qu'elles sont parfaitement à l'aise par rapport aux différents risques de solvabilité, de liquidité, alors que le superviseur commence à leur demander d'être un petit peu plus rigoureux.
Ben, c'est la contrepartie, puis ça boucle un peu sur la question de où va l'Europe. C'est-à-dire, je pense que la question de la gestion des dettes souveraines et des défauts souverains va se reposer à horizon, c'est dur de faire des prédictions, mais disons qu'elle va se reposer à un moment, la situation italienne, même la situation française en un sens. Donc ces thèmes peuvent réémerger. Donc c'est aussi le rôle de la Banque centrale de préparer le système bancaire.
Vous imaginez que la question des dettes souveraines se pose avec l'Italie et la France.
Non, mais comment dire, la pression va se manifester.
Le scénario Jean-Pierre Petit sourit d'Europe qui aura bien du mal,
ça va se manifester sous forme de pression. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment, puisque les gouvernements ne peuvent arrêter en un sens de dépenser que sous la pression des marchés, il y a un moment où cette pression se manifestera par des spreads et où les spreads deviendront.
Je vois très bien. C'est le jour d'après.
Mais là, on le gère. Hein,
On gère quoi, Jean-Pierre ?
On gère la com.
C'est-à-dire quoi ? La communication.
La com, oui.
La communication. 4 minutes 30,
Parce qu'en fait, il suffit de dire qu'on est quand même soucieux des équilibres budgétaires à moyen terme pour rassurer les marchés.
Ça marche encore, ça ?
Écoute, ça marche. Là où ça n'a pas marché, c'est le Royaume-Uni. Parce que là,
ça n'a pas marché, le Royaume-Uni.
Et son chancelier de l'échiquier était vraiment très mauvais. À la fois sur le fond et sur la com. Là, ils ont été très mauvais. Là, il y a toujours quand même une volonté. Donc, ça tient pour l'instant. Ça tient. Puis, il y a quand même le Royaume-Uni, déficit jumeau, tout seul, isolé. 7% de déficit de la balance courante, dépend de l'épargne extérieure, Voilà.
Ah oui,
nous, on a un équilibre, quand même. Voilà. On dépend pas de l'épargne extérieure.
Nous qui, les Européens.
La
zone euro, oui.
Et la Banque Centrale Européenne assure la mutualisation, pour l'essentiel. Voilà. Elle a le TPI, quand même, pour aider les pays.
C'est le nouveau mécanisme anti-fragile. fragmentation, enfin, en cas de coup dur sur un pays, la Banque Centrale Européenne réveille les mécanismes qu'on a utilisés.
Bon, après, pour Villeroy de Gallo, bon, l'inflation va être à 10,5, là, au T4, à peu près. On est autour de 10,5.
Oui.
Donc c'est normal.
On est au-dessus de 11 en harmonisé en Allemagne.
Hein. Oui, oui, non, mais ok, mais on est à peu près à 10,5, c'est normal qu'ils tiennent ce discours. Voilà. Après, il y a quand même des bonnes nouvelles, si je puis dire, par rapport à ce qu'on pouvait. Il y a 2-3 mois. Mmh. Le prix du gaz a quand même considérablement baissé. Alors que là, il explosait, hein, je rappelle, à plus de 300 euros hein, à la fin août.
On est redépassé. 340
dans ces eaux-là.
Ouais.
Voilà. Il y a les plans de soutien, et notamment le plan de soutien allemand, qui vont quand même freiner la récession. La récession va être quand même plus soft que ce qu'on pouvait dire il y a 2 mois. Donc, de ce strict point de vue, les choses sont un peu moins pires. Et donc, ça légitime un peu les gouverneurs de banque centrale à tenir un discours, à se refocaliser un petit peu sur l'inflation, à tenir un discours qui marche pour l'instant au sens des anticipations de moyen terme quand même. Hein. Ouais, et même aux États-Unis où ça baisse. Hein. Voilà. Donc de ce point de vue, ça marche. Simplement, le prix à payer, c'est effectivement.
Malgré les mea culpa des banquiers centraux nous disant qu'ils se sont complètement plantés sur les perspectives d'inflation.
Il y a eu deux chocs d'offres extraordinaires.
Ah oui, d'accord. C'est vrai.
Se planter bon. Là-dessus. Bon,
voilà. 2 minutes 30, vous voulez dire un mot d'Anne Hidalgo, Denis Père. Oui. Anne Hidalgo qui veut doubler. Enfin, pardon, pas doubler. Augmenter de 50% la taxe foncière à Paris en 2023.
Paf. Oui, c'est scandaleux. La mairie de Paris, c'est une administration française qui est peut-être une des plus caricaturales de nos administrations, où on a, c'est quand même un mouvement assez général, on a des administrations qui coûtent de plus en plus cher et qui offrent un service de plus en plus médiocre, quand même, il faut bien le dire. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la sécurité, avec à chaque fois le même mode de fonctionnement, le même management, ultra centralisé, des services administratifs pléthoriques, hein, tous les benchmarks internationaux sont catastrophiques pour nos administrations, on le sait dans la santé, on le sait dans l'éducation. Eh bien, la mairie de Paris, c'est ça de façon encore plus caricaturale. Avec la question légitime de où va l'argent, quoi. Avec un service de plus en plus médiocre, avec une ville qui est sale, avec une insécurité permanente, et avec effectivement une taxe foncière, qui va augmenter de 50%, et qui donc aura un impact terrible sur la disponibilité de logements à Paris. Je veux dire, plus personne ne veut louer de logement à Paris déjà parce que les loyers sont plafonnés. Maintenant, vous faites augmenter la taxe foncière de 50%, mais c'est terminé. Donc, la pénurie de logements qu'on connaît à Paris va continuer. Juste un benchmark quand même pour rappeler la performance de la mairie de Paris. Une étude de la Chambre régionale des comptes qui est déjà un peu ancienne, mais je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé, qui disait qui regardait les villes de Barcelone et de Londres et qui montrait qu'il fallait 2 à 3 fois plus de fonctionnaires par habitant à Paris qu'à Barcelone et à Londres pour faire la même chose.
C'est donc, un sujet que personne ne veut ouvrir, personne n'a d'idée.
Mais avec comme conséquence dramatique ce qu'on voit là, c'est-à-dire l'augmentation des impôts, c'est-à-dire la non-compétitivité, c'est-à-dire aussi d'ailleurs la destruction des emplois industriels, parce que tout ça est lié. Quand on a un niveau de prélèvement qui est exorbitant, on est 5 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne, et c'est lié évidemment à tous ces dysfonctionnements, à toute cette inefficacité, ça a des conséquences majeures sur l'attractivité, des conséquences majeures sur l'emploi industriel. On est le pays le plus désindustrialisé d'Europe, c'est en grande partie lié à ça.
Pour le logement,
donc c'est des sujets gravissimes.
Pour le logement, j'ajouterais un point, c'est la volonté de la mairie de Paris de passer à 40% de logement public. Ça augmente la pression sur le parc locatif privé.
Bien sûr, la mairie de Paris qui est dirigée quand même par des communistes, il faut le rappeler, c'est un élu communiste, Yann Brossat, qui veut ça.
Et il est content d'ailleurs.
Il se revendique communiste encore aujourd'hui, c'est-à-dire une idéologie de Pol Pot, de Staline, bien sûr, et qui n'ont pas peur de se revendiquer communiste. Et le communiste, ça a toujours mal fini, on le sait.
Le mandat d'Anne Hidalgo aura multiplié par 7 l'endettement de la ville de Paris laissé par Bertrand Delanoë. On doit être à 7 milliards d'euros. Du coup, on n'avait jamais vu ça.
N'importe quoi.
Et elle s'était engagée à ne pas les augmenter.
Elle s'était engagée à ne pas augmenter les impôts.
Je rappelle, de façon tout à fait anecdotique.
Mais vous savez, c'est comme Lavoisier. Hein.
Absolument.
Rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Bon, c'est terminé. Merci infiniment, Augustin Landier, Denis Père, Jean-Pierre. Petit rendez-vous demain à 9h.